Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Amen, ça va? Oui, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ton évangile rétabli, pour la vérité que tu nous communiques, afin que nous puissions vivre en équilibre au milieu du chemin, comme l'a dit ton prophète. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour cette étude de ce soir et te bénissons d'avance de ce que tu ouvre nos cœurs et que tu nous donnes l'intelligence nécessaire afin de traduire ces paroles en actes. Merci Jésus. Amen. Voilà, alors on vit dans une culture obscurcie, même dans l'Église de Jésus-Christ, hein, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et dans ce monde, c'est vraiment une culture obscurcie, en particulier au sujet du mariage. Et je vais vous dire quelque chose d'un peu surprenant ce soir, peut-être pour certains d'entre vous qui êtes sur Internet et qui ne me connaissez peut-être pas, ou pas très bien. Il y a quelque temps en arrière, je vous disais que si Adam et Ève n'avaient pas chuté au jardin, Dieu n'aurait jamais pu manifester tous ses attributs. Nous savons que Dieu est tout, mais en lui-même, il est tout. Et en lui-même, il a toujours été sauveur. Mais tant qu'il n'y avait personne à sauver, comment voulez-vous que il lui manquait quelque chose, n'est-ce pas? D'accord. Et comment manifester cela s'il n'y a personne à sauver? Ben voilà. Donc, un plan a été établi avec notre consentement. Nous avons voulu tout cela. Nous avons voulu tout cela dans notre passé éternel. Et je sais que quand j'ai dit ça, à l'époque, ça avait choqué pas mal de personnes, mais je veux le répéter encore ce soir, je veux le dire avec plus de profondeur encore. Vous savez, j'ai 66 ans aujourd'hui, j'ai plus l'âge, on a peur de perdre des amis à cause d'une croyance. On a plutôt peur de perdre nos amis parce qu'ils deviennent vieux, mais pas à cause d'une croyance. Les vrais amis ne nous quittent pas à cause d'une croyance. Arrivé à cet âge-là, il y a l'intelligence, la tolérance qui fait qu'on parle et on s'explique. Enfin, du moins pour les gens qui parlent, évidemment, il y a toujours des gens qui gardent en eux-mêmes, c'est dommage. Alors, je vous dis ce qui est la vérité, même si ça ne plaît pas à tout le monde, tant pis, même si ça n'est pas évangéliquement correct. Quand je dis évangéliquement correct, je ne parle pas des évangiles, je parle des institutions évangéliques qui ont un certain message que moi, je ne trouve pas correct. Alors, c'est évident qu'eux ne vont pas trouver correct ce que je vais dire ce soir. Mais tant pis. Vous venez sur Révélation B, vous avez le droit de savoir. Et en tant que serviteur de Dieu, j'ai le droit de vous dire, même plus que ça, j'ai le devoir de vous dire. Selon ce que je comprends de la Bible, Adam est le premier homme. Vous êtes d'accord aussi. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est le second Adam. D'accord. Et toujours selon ce que je comprends de la Bible, la vie de Jésus-Christ, c'est l'histoire du don de l'expiation. Je vous ai déjà expliqué mille fois ce que ça veut dire expiation. Je sais qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui ignorent ce que ça veut dire. Je ne veux pas le répéter, aller chercher dans un dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Et donc la venue de Jésus-Christ, sa vie sur cette terre, c'est l'histoire du don de l'expiation. Et l'histoire d'Adam et Ève est l'histoire de la réception de l'expiation. Nous sommes dans un système d'opposition constant. Mais il n'y a qu'une vérité. Et elle est très souvent ignorée ou un peu cabossée. Adam et Ève ont été les premiers à recevoir l'expiation de Jésus-Christ. Alors, je pense que ça peut en étonner plusieurs. Adam et Ève ont aussi été les premiers parents à connaître l'amour qu'apporte un enfant. Et le sacrifice, les sacrifices qui font que nous nous dépassons lorsque cet enfant arrive, et les sacrifices qui sont requis aussi pour élever nos enfants. Vous avez des gens qui font des enfants, voilà, ils ne les élèvent pas après, on ne sait pas. Et puis l'angoisse aussi de voir les enfants faire un bon ou un mauvais choix au sujet de la connaissance du bien et du mal. C'est une angoisse pour les parents de voir les enfants qui se détournent des bonnes choses de Dieu. Et si Adam et Ève n'avaient pas désobéi à Dieu dans le jardin, ils seraient restés dans le jardin d'Éden. Et je vous rappelle que tant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ne se sont pas connus. dans le terme biblique. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas eu d'enfants. Hein, il nous est dit que c'est une fois qu'ils ont été dehors, en dehors du jardin, qu'ils ont commencé à faire comme les autres animaux. Et puis, parce que c'était la fin de l'innocence. C'est pas, ils n'ont pas perdu leur innocence quand ils ont commencé à faire des bébés, comme certaines religions le disent, mais parce qu'ils avaient perdu leur innocence, alors, bon, ben voilà, ils ont eu, n'est-ce pas, ils ont commencé à faire des bébés, comme les autres animaux. Et ça en était fini l'innocence. S'ils étaient restés dans le jardin, est-ce qu'ils auraient eu des enfants? Ben, je pense pas. Bien qu'ils en avaient reçu l'ordre. L'ordre avait été donné. L'ordre était établi, toute chose était établie, mais bon, ils étaient là, innocents, ils étaient nus, donc ils ne le remarquaient même pas, voilà quoi. Hein. Mais étant dans le jardin, dans un état d'innocence, je dis qu'ils n'auraient pas connu de joie non plus, parce que ils ne connaissaient pas, ils ne pouvaient pas connaître la misère. Quand on ne connaît pas la misère, on ne peut pas connaître la joie. Ils auraient été ne faisant aucun bien parce que ne connaissant aucun mal, ne connaissant aucun péché. C'était une vie. Alors les gens pensent, ah, le paradis, ça avait été formidable. Paradoxalement, le péché et la misère et les enfants ont contribué à créer le cadre où nous apprenons la signification de ce que c'est que la joie. Et cela à cause d'un processus, celui de l'expiation de Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire encore une fois, oui, mais Jésus-Christ, l'expiation de Jésus-Christ n'avait pas encore eu lieu. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. Mais si vous lisez dans une bonne Bible, par exemple, là, John Scofield, c'est une Bible protestante, vous pouvez trouver ça aussi dans les Bibles catholiques, c'est dans Apocalypse 13, 8. Maintenant, il y a de nouvelles Bibles qui ont trafiqué ce message. Ils ont enlevé une certaine partie. Mais dans les bonnes vieilles Bibles, voilà ce qui est écrit. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, c'est-à-dire le faux Christ. Hein, quand le faux Christ viendra, ils l'adoreront. Eux, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Qu'est-ce que vous dites de ça? L'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Les gens sautent vite là-dessus. D'abord, ils ne lisent pas l'Apocalypse parce qu'ils disent qu'on ne comprend rien. Alors, voilà. Mais s'ils savent ça, alors, l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Donc, l'expiation était faite. Jésus a été immolé dès la fondation du monde. Et c'est grâce à l'expiation de Jésus-Christ que nous pouvons tirer des leçons de nos expériences sans être condamnés par elles. Vous voyez la portée? Recevoir l'expiation, comme Adam et Ève l'ont fait, c'est pas simplement une question d'avoir nos péchés qui sont effacés, mais c'est ce qui nous permet de progresser. S'ils étaient restés dans le jardin d'Éden, ils n'auraient pas progressé. Ils seraient restés dans un état d'innocence. Et, par exemple, Adam et Ève, ils étaient créés à l'image de Dieu, mais ils n'étaient pas comme Dieu. Ils ne connaissaient pas, ils n'avaient aucune connaissance du bien et du mal. C'est une fois qu'ils ont chuté que Dieu dit « Ah, maintenant ils ont la connaissance du bien et du mal, empêchons-leur de toucher à l'arbre de la vie, de peur qu'ils ne vivent éternellement dans cet état-là. Il faut qu'ils progressent pour arriver au point où je veux qu'ils arrivent. Hein? » Donc, ils étaient créés à l'image de Dieu, mais ils ne connaissaient pas ça. Ça leur manquait. Il fallait donc qu'ils progressent. Ils devaient connaître le bien et le mal. Alors, bon, vous me direz, ils l'ont volé. Ce n'est pas bien de voler. C'est bien, c'est pas bien, c'est vrai. Mais si Dieu n'avait pas donné la loi, bah, ils n'auraient pas été tentés. Vous savez, péché vient par la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Dieu a donné la loi afin qu'il y ait possibilité des transgressions. Et tout ça, ça faisait partie du plan du salut, du plan merveilleux du salut. Hein, ils devaient connaître le bien et le mal pour commencer leur progression vers la sainteté, pour arriver à la stature parfaite de Christ dont l'Éphésien nous parle. Et c'est cela le but, que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. C'est ça le but. Voilà pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Ainsi, le sacrifice de Jésus ne les a pas seulement ramenés à un état d'innocence, mais, parce que si ça avait été le cas, il n'y aurait eu aucune possibilité de progresser. Ils auraient été pardonnés, remis, restés dans le jardin, pouf, pouf, voilà. Ben oui, puis alors? Et alors? Je sais que c'est que ça doit être nouveau pour quelques-uns d'entre vous, mais ne rejetez pas ça. Mettez ça dans la prière. Demandez au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si c'est vrai, et le Saint-Esprit vous répondra si vous acceptez d'être lavé des croyances imposées par votre religion pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église que Dieu est en train de rétablir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois pardonnés par Dieu, ils se sont attachés l'un à l'autre et ils ont avancé ensemble dans le monde. Ce que Dieu rétablit aujourd'hui, c'est plus que des doctrines. Bien sûr, ça passe par les doctrines aussi, parce qu'il faut comprendre. Alors, on établit des doctrines d'après ce qui est écrit. Mais ce que Dieu rétablit aujourd'hui, c'est ce qui doit être vécu. Alors, on prend Adam et Ève. Qu'est-ce que le christianisme traditionnel enseigne à leur sujet? Déjà, premièrement, Adam et Ève, vous allez taper Adam et Ève sur Google, vous allez voir un bonhomme, une bonne femme, tout nu, avec une branche d'arbre à l'endroit où il faut, pour pas qu'on voie, hein? Et puis, ils sont toujours près d'un pommier. Vous avez remarqué? Voilà, ça c'est faux, c'est complètement faux, c'est stupide. Ça, on le sait, Dieu nous a montré, nous a révélé ce que c'était que ce fameux péché. Le choix de Ève, voilà ce qu'ils enseignent, c'est que ça a été une erreur tragique qui a fait tomber la colère de Dieu sur l'humanité entière. C'est vrai, mais pas complètement. C'est seulement une partie de la vérité. C'est seulement une partie de la vérité. Les églises, en général, enseignent que, puisque Ève a péché la première, les femmes qui sont ses filles doivent être soumises à leur mari. Alors c'est vrai, mais qu'en partie seulement. C'est seulement une partie. Regardez maintenant les gens du monde, comment ils réagissent à tout ça, à ces siècles de religion abusive. Bien, les gens du monde ont une forte réaction à cet enseignement qui a tenu la femme dans une dépendance pendant des millénaires. Et il y a encore des grandes parties sur cette planète où les femmes sont tenues vraiment dans le, en dessous de tout, hein, en dessous de tout. Alors il n'est pas question d'être dépendant ou d'être indépendant l'un de l'autre. Lorsque les conjoints sont indépendants l'un de l'autre, ils acceptent des engagements flexibles, élastiques, hein, ce qui aboutit à la multiplication des divorces qu'on voit aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui. Je ne vous fais pas de dessin, vous savez tous où on en est dans nos pays. Alors, qu'est-ce qui est juste? Eh bien, c'est ce que notre prophète nous a toujours dit, c'est le milieu du chemin. La dépendance ou l'indépendance, ni l'un ni l'autre. Ni la dépendance, ni l'indépendance. Ni l'un ni l'autre. Contrairement au christianisme actuel, l'évangile que Jésus est en train de rétablir enseigne que le choix d'Adam et Ève n'était ni une erreur ni un accident. Le choix a été une partie glorieuse du salut. Il fallait que Dieu se manifeste comme sauveur. Et c'est pourquoi le rétablissement considère Ève et toutes les femmes comme des êtres nobles, égaux en tout point aux hommes. Ah, là, je suis sûr que Mme Osborne serait ravie de m'entendre. Ève n'est ni dépendante ni indépendante d'Adam. En vérité, Adam et Ève sont interdépendants. Voilà la vérité. Ils sont égaux dans tout ce qu'ils font. Allons plus loin. Il nous est dit que Caïn et Abel offraient des sacrifices. Genèse 4, 3. Pourquoi? Parce que papa, maman offraient des sacrifices. Ils ont fait ce qu'ils ont dû faire depuis leur jeune âge. Adam et Ève offraient, et puis ils ont appris à leurs enfants. Or, les animaux qu'il fallait offrir, c'était le symbole qui leur indiquait le sacrifice de Jésus. Il fallait que du sang coule. Qu'est-ce que c'était ces autels qu'Adam, Ève, Caïn, Abel avaient? Qu'est-ce que c'était ces autels? C'était des autels de prière, c'était des autels de sacrifice, c'était des autels d'alliance. Alors, réfléchissez spirituellement et non avec vos a priori religieux, s'il vous plaît. Depuis l'époque où Jésus-Christ est venu sur la terre pour terminer sa mission expiatoire, parce que son sacrifice qu'il a fait dès la fondation du monde était dans le monde de l'esprit, il fallait que ça se passe aussi dans le monde créé, d'accord? Comme tout a été d'abord créé dans l'esprit, puis ensuite c'est venu se manifester dans la chair dans la création. Eh bien, depuis l'époque où Jésus-Christ est venu sur la terre pour terminer sa mission expiatoire, nous n'offrons plus des animaux en sacrifice. Et pourtant, nous faisons l'alliance de sacrifice. C'est ce que le Nouveau Testament lui-même nous dit. De quelle manière est-ce que nous sacrifions ? Nous offrons à Dieu en sacrifice des cœurs brisés et un esprit contrit. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit de faire ? Bien sûr. Les sacrifices d'animaux, ça symbolisait le sacrifice du Fils que le Père offrait. C'était le sacrifice du Père. Il sacrifiait son Fils. C'était son sacrifice. Mais le sacrifice d'un cœur brisé et d'un esprit contrit symbolise le sacrifice qui fut le sacrifice du Fils, le sacrifice de Jésus. Il a sacrifié volontairement sa personne. Il a dit « Personne n'a mot de ma vie, c'est moi qui la donne ». Mais c'était le sacrifice du Père qui donnait son Fils, c'était le sacrifice du Fils qui donnait sa vie pour nous. Donc, deux sacrificateurs pour un seul sacrifice. Alors, en similitude, nous offrons personnellement notre propre cœur brisé en sacrifice. Et aujourd'hui, le véritable sacrifice personnel, ça ne consiste pas à offrir un animal sur un autel, ça consiste à placer sur l'autel la partie animale de notre être, de notre nature, et de permettre qu'elle soit consumée. Ainsi, on respecte nos alliances. Sinon, on ne respecte pas nos alliances. On se rapproche de Dieu en tant qu'homme et femme mariés, et plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche l'un de l'autre. Alors pardonnez-moi, mais aujourd'hui, de nombreuses personnes considèrent le mariage comme un arrangement officieux entre deux mercenaires. Pourquoi est-ce que je dis de mercenaires ? Parce qu'un mercenaire, quand il voit le loup arriver, ce n'est pas ses brebis, il s'en fiche, il se taille. Il abandonne ses brebis. Le mercenaire, quand les problèmes surgissent, le mercenaire, il s'en va. Il divorce. Bon, la Bible nous dit bien, à part si c'est pour une cause d'infidélité, je connais malheureusement des pauvres chrétiens dont le conjoint ou la conjointe est infidèle, bon, ben là, c'est justifié. Ils peuvent divorcer. Mais autrement, on ne divorce pas, comme ça, non, parce que surgissent des problèmes. Jésus, lui, n'est pas un mercenaire, il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, et le conjoint chrétien, il donne sa vie à l'autre également, il donne sa vie à son conjoint. À l'exemple du bon berger, en tant que mari et épouse, nous donnons notre vie pour notre brebis, pour la brebis de notre alliance. La brebis de mon alliance, c'est la Michou. Et moi, je suis la brebis de son alliance à elle. D'accord ? C'est comme ça. C'est comme ça. Et ce processus nous invite à prendre sur nous, de manière désintéressée, les afflictions et les joies de notre conjoint et de nos enfants. En faisant ça, nous imitons, à notre niveau évidemment limité, la manière dont le Sauveur a pris sur lui nos afflictions. Moi, je me rappelle toujours, je ne veux pas nommer la personne, mais c'était un humoriste qui a quitté sa femme parce qu'elle est tombée malade. C'est épouvantable, une chose pareille, c'est épouvantable. Alors, non, ça ne va pas, ça. En partageant les afflictions de notre conjoint, nous découvrons dans nos cœurs une source profonde d'amour, de compassion, qu'un mercenaire ne peut pas connaître, c'est pas ses brebis. Vous voyez, c'est pas ses brebis, ça ne lui appartient pas. Voilà. Mes frères et sœurs, c'est la même chose dans l'Église, dans la communauté, qui est l'Église rétablie de Jésus-Christ. Si vous aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toutes vos forces, de tout votre cœur, et si vous refusez l'impiété, alors la grâce vous suffit afin que vous soyez parfait en Christ. Peu importe les événements, vous ne divorcez pas avec l'Église. Vous ne divorcez pas avec la communauté. Donc j'ai dit, je me retire, je ne divorçais pas. Je voulais voir qui allait être fidèle. Ben, j'ai vu. Il dit, oui, mais tu nous as pris par ruse. L'apôtre Paul n'a pas arrêté de faire des choses comme ça. Je voulais voir si vous obéissiez. Rappelez-vous, hein, dans Corinthiens. Voilà, c'est une façon de mettre à l'épreuve. J'ai vu. Une façon de nous refuser toute impiété consiste à magnifier la communion fraternelle. Parce que nous aimons Dieu comme nous aimons les frères et sœurs, on ne peut pas aimer Dieu plus que nous aimons les frères et sœurs. Pas possible. Et aimer, là, ça n'est pas mesurable avec une échelle abstraite et hors de portée, parce qu'on est là tous les jours, on se voit tous les jours, on mange ensemble, on parle, on décide ce qu'on va faire ensemble. C'est une famille, on ne peut pas avoir une échelle abstraite, n'est-ce pas, de ce qui est l'amour. Mes frères et sœurs, nous touchons là à cet état de vie douce et agréable avec des frères et sœurs dont nous parle le psaume 133, à qui les doux et agréables pour des frères de demeurer ensemble. C'est la même chose dans l'Église de Jésus. D'ailleurs, il y a un rapport, un grand mystère entre mari et femme, et puis l'Église, et puis l'Église de Jésus. L'apôtre Paul en parle aussi. C'est quelque chose qui est très semblable. Et puis, alors nous n'avons pas d'autre désir que de vivre simplement en accord avec la justice de l'amour, ce qui unit le mari et son épouse et ce qui unit les vrais frères et sœurs qui sont unis vraiment en Jésus-Christ et non pas simplement pour un intérêt quelconque ou parce que vous avez des gens, ils sont mariés, puis après ça devient une habitude, et puis un jour, ben, ça pète. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Qui est marié, il faut créer les situations pour que ça ne soit jamais une habitude, mais que ça soit toujours rempli de projets, rempli de joie, d'espérance, de choses excitantes. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, c'est normal, hein, c'est normal, on doit tuer l'habitude, parce que l'habitude tue l'amour. Alors vous voyez, lorsque nous ressusciterons, nous atteindrons l'état de vie ineffable, et nous serons aussi beaux, sinon plus, que les anges qui entourent le trône de Dieu, parce que les faiblesses et de la chair, et tout ça, ça sera vaincu, ça sera même oublié, et nous serons pleinement en accord avec la loi divine. Qui nous a unis sur terre? Et cette unité qui était créée sur terre par serment au nom du Seigneur Jésus-Christ, un engagement avec alliance, durera pour l'éternité. Voilà pourquoi je dis que le mariage est éternel et voilà pourquoi nous nous retrouverons ensemble dans le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi aussi il y aura plusieurs demeures dans la maison du Père. Parce qu'ici, il y en a qui déjà se séparent, on ne pourra pas être éternellement avec eux, on se verra de temps en temps. Mmh. Voilà, c'est dommage. Mais ici-bas, déjà, les choses se précisent. Vous voyez, mes frères et sœurs, ça vaut tous les sacrifices de trouver, d'édifier, de conserver l'ordre du mariage que Dieu a donné à Adam et Ève, qui est aussi valable pour l'ordre d'engagement, d'amour fraternel ici-bas dans l'Église. Notre vie ici-bas, c'est qu'un moment. C'est un moment où nous passons par des épreuves pour que nous puissions sortir édifiés, fortifiés, non pas écrabouillés. Et c'est un moment. Mais nous vivrons éternellement notre amour en tant que mari et femme et en tant que frère et sœur en Jésus-Christ. Je le crois.
Oui.
Amen. Vous Amen. Le croyez? Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Jésus de nous donner une claire compréhension de ces choses pour que nous puissions trouver le courage de vivre encore malgré toutes les dissensions, malgré tous les chagrins que nous pouvons connaître. Merci Seigneur de nous donner toujours cet espoir que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci Seigneur Jésus. Sois béni mon Dieu. Tu connais nos cœurs, tu connais le mien, tu sais tout. Et je te remercie, mon Dieu, de ce que je peux venir devant ta face et être reçu comme ton enfant bien-aimé. Merci, Seigneur, parce que les expériences, même mauvaises que je fais, ne me détruisent pas, mais avec ta grâce, cela me construit. Et je te prie pour qu'il en soit de même pour chacun et chacune, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.